16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages connus pour avoir shooté les plus grandes stars. Et parfois tristement connus, hein, puisqu'après Nadar et Cosette Harcourt, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99% vrai de Mark Chapman, l'homme qui a vraiment shooté John Lennon.
Tout le monde aime les Beatles. Il faudrait vraiment être un insupportable pseudo-mélomane, puriste, snobinard pour dire en écoutant les Beatles
« Ça va, c'est pas mal, mais c'est pas non plus top ».
Non, hormis quelques insupportables critiques portugais qui maintiennent que Linda de Souza c'est mieux, tout le monde aime les Beatles et tout le monde aimait John Lennon. John Lennon qui aurait pu nous offrir encore 10, 20, 30 tubes s'il avait vécu plus longtemps, mais non, car à seulement 40 ans, quick, ou plutôt... plus de John Lennon, emporté le 8 décembre 1980 par la folie d'un loser nommé Mark Chapman, rien à voir avec Tracy. Au cours de son procès, Mark Chapman ne va même pas plaider la folie, comme lui conseillent pourtant ses avocats, non. Il explique très concrètement avoir acheté l'arme du crime quelques mois avant le meurtre, avoir totalement prémédité son geste et avoir même dressé une liste de 3 autres victimes célèbres potentielles de l'époque au cas où le projet Lennon capoterait. À cette occasion, Prince et Elton John apprennent qu'ils ont eu chaud. Heureusement pour eux, ils n'étaient que des bouche-trous si d'aventure le plan Lennon foirait. Car le 8 décembre, la planète est sous le choc. Il y a des stars comme ça qui nous paraissent éternelles. Lennon en faisait partie, comme Elisabeth II ou Laurent Romeshko. Et puis, il y a ce foutu Mark David Chapman qui était, et c'est peut-être ça le pire, un grand fan des Beatles. La légende dit que, le soir, devant son miroir, il reprenait les tubes de John Lennon.
Imagine there's no heaven.
Oui. Alors, vous avez compris, quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de Mark, comme le monde va le découvrir avec effroi ce 8 décembre 1980. Ce jour-là, dans la matinée, Annie Leibovitz, photographe de renom qui a pour habitude de prendre en photo des nourrissons dans des arrosoirs et accessoirement photographe officielle du journal Rolling Stones, immortalise le chanteur pour la toute dernière fois. Elle le shoot nu, en position fœtale, en compagnie de son épouse Yoko Ono. Le cliché deviendra culte. Bon, pas aussi culte que celui de Stéphane, dit de la fleur de lys.
J'avais une branche de fleur de lys devant le sgeg.
Oui, mais assez culte quand même, comme cliché. John, en tout cas, est de bonne humeur. Après la séance photo, il accorde une interview où il a cette formule qui fait rétrospectivement froid dans le dos, sachant ce qui va lui arriver dans quelques heures. « Je considère que mon travail ne sera jamais fini, jusqu'à ce que je sois mort et enterré. J'espère que ça sera dans très très longtemps. » Aïe, quelle andouille, il s'est porté le mauvais œil. C'est comme ceux qui disent « C'est fou, en 2 ans, j'ai jamais chopé le Covid. Ça doit être ma superbe condition physique ou mon groupe sanguin. Nous autres, au plus, on est immunisés. » Et bam, Omicron dans ta gueule. John, lui aussi, a parlé trop vite. La mort l'attend en embuscade. L'après-midi, John, toujours accompagné de Yoko, accroché à lui comme une moule de bouchot à son rocher, quitte leur appartement new-yorkais pour les studios où John doit enregistrer ce qui sera de fait son dernier titre, Walking on Thin Ice. Au pied de l'immeuble, des fans réclament des autographes. Parmi eux, Mark Chapman, qui demande d'abord une dédicace aussi. On sait depuis qu'il devait le tuer là, tout de suite, mais voilà, John signe et puis ajoute « Est-ce que c'est tout ce que vous désirez ?» Cette extrême gentillesse désarçonne quelque peu notre apprenti tueur, qui décide donc de repousser son meurtre à plus tard. Le couple s'en va et ne revient qu'à 22h50. La suite, on la connaît. 22h52, John Lennon reçoit 4 balles de revolver calibre 38 sous les yeux de Yoko Ono. Le chanteur déclare dans un ultime cri « je suis touché » avant de s'effondrer. Il meurt à 23h07, à tout juste 40 ans. Selon le rapport de police, le concierge couvre d'abord la victime avec son uniforme, lui enlève ses lunettes, puis seulement alerte la police. Pourquoi lui enlever ses lunettes avant de prévenir qui que ce soit ? La buée peut-être, en même temps quand t'es mort c'est moins emmerdant, bref on ne sait pas. Mark Chapman, lui, est toujours là, peinard, il attend qu'on le coffre, il s'assoit sur le rebord du trottoir, retire sa veste et son chapeau pour se mettre sans doute plus à l'aise à assassiner, c'est fatigant. Le portier lui hurle « Tu sais ce que tu as fait ?» Ce à quoi le tueur répond « Oui, je viens d'abattre John Lennon. » Quand la police arrive, Mark n'a pas bougé, son revolver est à terre et il tient l'attrape-cœur de Salinger à la main, version poche, parce qu'en plus d'être meurtrier, Mark était aussi radin. Évidemment, on s'en doute, il plaide coupable, évidemment, il prend perpète, ce qui n'empêche pas le monde entier de se perdre en conjectures. Pourquoi a-t-on tué John Lennon ? C'est tellement fou, tellement incompréhensible. Et si c'était plus compliqué que ça ? Et si John Lennon n'était en fait pas mort, mais qu'il était simplement parti en vacances sur une île secrète avec Tupac, Michael Jackson, Kennedy et Guy Lux ? D'autres, peu convaincus par l'hypothèse Guy Lux, ont cherché à établir un lien entre Chapman et le FBI. L'assassinat de John Lennon serait en fait politique, Stéphane. D'après ses experts, oui, John était juste avant sa mort sur le point de défendre des travailleurs japonais aux États-Unis qui se battaient pour leurs droits. Et ça, ça dérangeait la Maison-Blanche, évidemment. Mark Chapman n'était donc qu'une simple marionnette dans cette histoire. L'hypothèse tient moyennement la route. Mark a plutôt le profil du loup solitaire, ou plutôt du loser solitaire. Sa vie est un naufrage lent. Né en 1955 d'un père sergent de l'US Air Force qui le cogne, il sombre à l'adolescence dans le LSD, fugue, écoute les Beatles, vit un traumatisme amoureux puisqu'il trompe sa compagne qui l'aimait pourtant follement, elle l'apprend, elle le quitte, il ne se le pardonne pas et s'enfonce dans une dépression qui va devenir chronique. Il écoute toujours les Beatles, mais leur succès, surtout comparé à sa déchéance à lui, commence à l'agacer. Le contraste entre sa vie et celle de John, c'est vrai, a de quoi agacer. En 1977, il décide de se donner la mort par intoxication au monoxyde de carbone dans une voiture. Pas de bol pour l'histoire de la musique, mais même ça, il n'est pas foutu d'y arriver. Il réchappe donc de cette tentative de suicide et devient vigile dans un parking de nuit. Pour supporter cette condition, Marc se met à boire, ce qui a rarement amélioré un état dépressif. Bref, Marc continue d'écouter John Lennon, mais il est jaloux. Et on sait comment sa jalousie va s'exprimer. Des lunettes ensanglantées en témoignent, lunettes que Yoko Ono a conservées, qu'on retrouvera sur la pochette de l'album posthume de John Lennon. En 2020, la 11e demande de libération conditionnelle de Mark Chapman est à nouveau refusée, malgré un vif mea culpa du prisonnier. Je cite « C'est le pire crime qu'on puisse commettre. Faire ça à quelqu'un d'innocent. C'était un père de famille, une icône, et je l'ai assassiné. Je veux dire que je comprends à quel point c'était un acte égoïste, et je suis désolé pour le chagrin que j'ai causé. J'y pense tout le temps. » C'était bien parti, cette lettre au juge. En vue d'une remise en liberté, le juge aurait peut-être craqué si Marc s'était arrêté là. Hélas pour lui, après il entre un peu plus dans le détail. À l'époque, je pensais qu'il avait plein d'argent et qu'il vivait dans un bel appartement alors que sa musique incarnait un mode de vie plus prudent et généreux. Ça me mettait en colère et ça me rendait jaloux lorsque je comparais sa façon de vivre à la mienne. Oui, bon, arrête, Marc, pose ton stylo. Mais non, Marc, continue. Tout ça, c'était juste pour la gloire, rien de plus. Il n'y a pas d'excuse. Je savais que c'était mal, mais j'ai fait ça pour la gloire, juste la gloire. Il était tellement connu, incroyablement connu. C'est uniquement pour ça qu'il était en haut de ma liste. Oui, autant la fermer, Marc. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. De toute façon, Yoko Ono s'y oppose encore et toujours, par peur notamment que Mark Chapman s'en prenne à elle ou au fils du chanteur. Elle redoute aussi que des fans des Beatles veuillent se venger et se livrent sur Mark à une véritable boucherie. Mark Chapman, l'homme qui a tué John Lennon, va donc rester en prison et comme vous aurez oublié son nom dans 5 minutes, non, il n'a même pas réussi à devenir célèbre par son acte odieux. Un acte qui, au vu de son profil, aurait pu probablement être évité s'il avait été pris en charge psychologiquement. Guidé par un thérapeute, cette folie, qui prenait sa source dans un profond mal-être, Chapman aurait pu l'exprimer différemment.
En jetant des Tupperware pleins de jus de raisin à travers la pièce.
Par exemple, David, ça c'est ce que votre psy vous a conseillé de faire et ça marche bien, puisqu'à ce jour, bon bah ça vous a coûté cher en jus de raisin et en shampoingage de moquette, mais vous n'avez tué personne. Enfin, tout ça ne nous rendra pas Lennon, qui restera toujours dans nos cœurs. Vous vous souvenez, Stéphane, de la première fois que vous avez entendu une chanson des Beatles ?
J'avais une branche de fleurs de lys devant le Sgeg.
Ah oui !
Bonne soirée alors !
Merci beaucoup, Mathieu.